Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. L'émission de cinéma hebdomadaire. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de 4 films et pas forcément des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas Marine ?
Tout à fait. Alors moi, je vais vous parler du dernier Woody Allen. Ça faisait quand même presque 6 mois qu'il n'avait pas fait de film, on commençait à être inquiet. Donc L'Homme Irrationnel avec Joaquin Phoenix et Emma Stone. Et je vous parlerai également d'un premier film, un film de Camille Fontaine qui s'appelle Par accident, un film français.
Et puis moi, eh bien, je parlerai du dernier Rapno, qui est sorti déjà, eh bien, c'était le mercredi précédent. Mais surtout, je parlerai de Seul sur Mars, film de Ridley Scott, qui sort le 21 octobre. Film attendu, film de grand studio, peut-être un des derniers films de Ridley Scott, on espère que non. Et puis, ce sera l'occasion, eh bien, de jouer un blind test spécial Matt Damon. Donc, on vous fera écouter des extraits où Matt Damon interprète un rôle et vous devrez trouver le titre du film. C'est Cinérama qui débute maintenant.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on commence donc avec L'Homme Irrationnel de Woody Allen, dont on écoute tout de suite un petit extrait de la bande-annonce.
Il paraît que Abe Lucas va venir enseigner ici à partir de cet été.
Sans rire, voilà qui va mettre un peu de Viagra dans le département de philo. Professeur Lucas, bienvenue à Brelin.
Merci.
Je suis ravie que vous soyez ici.
Votre disserte était pas mal du tout.
Est-ce que je suis devenue toute rouge, là ? Il a des idées super extrêmes, super originales. Soit on l'adore, soit on le déteste. Après avoir appris que tu venais, je fantasmais sur l'idée qu'il allait y avoir une histoire magique entre toi et moi.
J'y arrive plus depuis presque un an. J'arrive pas à écrire parce que j'arrive pas à respirer. J'arrivais plus à me rappeler le sens de la vie. Et quand ça m'est revenu, j'étais plus convaincu.
D'après ce qui se raconte, ton prof de philo aurait comme un petit problème d'alcoolisme.
S'il avait que ça comme problème. J'espère seulement que tu ne t'attaches pas trop à lui, d'une certaine manière.
Et ce dont vous souffrez précisément, c'est de désespoir.
Ce qui serait bien réconfortant.
Est-ce que vous entendez ce qui se passe derrière moi ?
C'est à cet instant que ma vie a pris forme.
Alors ça fait des années que Woody Allen accouche d'un film tous les 9 mois, un manège bien rodé qui, à mon sens, tourne à vide depuis pas mal de temps. Sa filmographie est certes encore jalonnée de quelques bonnes surprises, ça et là, mais globalement, le cinéaste de Manhattan se répète. En dehors de quelques sorties de route intéressantes, telles que Blue Jasmine, l'essentiel de sa filmographie se résume à un registre vaguement comique à base de personnages volubiles et de situations vaudevillesques où l'on discute beaucoup de ce qui va se passer sans qu'il se passe forcément grand-chose. L'homme irrationnel devait réconcilier Allen avec le thriller et l'on se réjouissait d'avance d'y retrouver l'esprit immoral de Match Point. Le scénario, par ailleurs, était de bon augure. Abbé Lucas, un professeur de philosophie désabusé et porté sur la bouteille, devient enseignant dans une nouvelle fac. Il se retrouve écartelé entre deux femmes, comme souvent chez Allen, une étudiante et une collègue qui tentent de raviver son désir d'écriture et son désir tout court, puis finit par penser que le meurtre pourrait être le déclic qui lui manque pour reprendre goût à la vie.
Il y avait sans conteste une nouvelle légèreté chez Abe.
Salut.
Dis donc, t'es regonflé à bloc ce matin.
Ouais.
Ouais. Il semblait avoir retrouvé le moral, il était plus optimiste, mais bizarrement, ça me tracassait.
Il y a quelque chose qui ne va pas ?
J'avais l'esprit totalement embrouillé, troublé.
Les étourdissements et l'angoisse s'étaient envolés. J'avais retrouvé mon appétit pour la vie.
Mais qu'est-il donc arrivé au prof de philo ? J'ai eu un homme de caverne, plutôt. Vous avez une théorie à propos de Abe ?
Vous jurez de ne pas répéter ?
Je vous donne ma parole.
La vie est pleine d'ironie. Une personne peut se débattre dans des difficultés complexes, insolubles.
Qu'est-ce qui vous prend, Abe ?
Voilà qu'en un clin d'œil, les nuages se dispersent et sa vie retrouve le sourire. C'est étourdissant. Je suis Abe Lucas. J'ai fait beaucoup d'expériences et j'en ajoute une hors du commun. Et l'acte significatif que je cherchais, c'était ça.
Alors le scénario part d'une idée plutôt excitante, à savoir comment justifier finalement un comportement individualiste et amoral par la philosophie. L'aspect cynique du film pourrait également le poser plus ou moins en critique du corps enseignant. Malheureusement, l'homme irrationnel est bien moins caustique que ce qu'il prétend être. Faussement intelligent, vraiment prétentieux, le film est un peu comme le personnage de Joaquin Phoenix, trop persuadé de son bon goût et très nombriliste. Joaquin Phoenix, qui est d'ailleurs sous-exploité dans ce film mou et paresseux, truffé de faux raccords et à la mise en scène totalement bâclée. Tout sonne faux, rien n'évoque la vraie vie. Alors certes, Allen n'est pas kéchiche, hein, mais même la direction de ses acteurs, qui sont vidés ici de toute substance, est mauvaise. Dévoreur de comédiens, il est rare que Allen emploie deux fois de suite la même muse. On a eu le cas de Scarlett Johansson avec le doublé Matchpoint et Scoop. Et c'est maintenant Emma Stone qui semble avoir la cote auprès des réalisateurs new-yorkais qui rempile chez Woody Allen après Magic in the Moonlight sorti l'année passée. La jeune actrice est elle aussi sous-exploitée, à part ses cheveux, qui sont très brillants, contrairement au film. Comme d'habitude, chez Woody Allen, le monde est composé de gens riches, blancs et polis, qui ne fument pas, qui parlent beaucoup de sexe, mais le font toujours hors champ. Et à l'instar de la petite mélodie de jazz entêtante qui accompagne le film, la mécanique du scénario est bien rodée, prévisible et assez agaçante. L'homme irrationnel se résume surtout par une débauche de pulls en cachemire et de mocassins, doublée d'un exemplaire illustré, la philo pour les nuls. On cite un peu de Heidegger, un peu de Sartre et on résume en trois mots la pensée de Kant. Bref, si vous passez votre bac à la fin de l'année, c'est parfait, hein, ça remplacera avantageusement vos annales. Et justement, le film n'y restera pas hein, dans les annales. Dommage, la lumière est très belle. Le chef-op Darius Kondji a fait un boulot efficace et l'ambiance de l'été indien, quoique un peu factice, est très agréable à regarder, mais pas pendant 1h30.
Moi, je trouve même qu'il y a trop de lumière. je suis assez d'accord.
Très soigné.
Je suis assez d'accord sur cette histoire de la philosophie où il essaie de balayer finalement des philosophes qui sont déjà connus, notamment les existentialistes. Après, il fait référence. Alors, ce qui est très intéressant, plutôt, moi, me semble-t-il, à Dostoïevski, Raskolnikov, donc dans Crime et Châtiment, ça aurait été parfait, finalement, de s'en tenir à ça. Mais là, il essaie de balayer un peu dans tous les sens. Et malheureusement, moi, j'y allais surtout parce que, j'avoue que Woody Allen, c'est bon, j'ai déjà donné. J'y allais pour revoir Joaquin Phoenix et en me disant, que va faire Woody Allen de Joaquin Phoenix? Et bien, finalement, il a rendu gros. C'est à peu près tout.
voilà.
Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est quand même un acteur que moi, je considère comme très grand, très fort. Et là, là il est absolument quelconque. Voilà, dommage.
Voilà, donc un film à ne pas voir. Hein. On va attendre son prochain en espérant qu'il fasse mieux.
Ben oui, ce sera un prochain et ce sera tout aussi bavard. Hein. On l'a entendu à la bande-annonce.
C'est sûr.
Ça n'arrête pas de parler. Maintenant, c'est Seul sur Mars. Autant dire que Matt Damon, tout seul sur sa planète, n'a pas dit grand-chose.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Seul sur Mars, film très attendu qui sort ce mercredi 21 octobre.
Chaque être humain a un instinct primaire. Secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception.
Et bam, 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 propos universel. Alors après le très immersif Gravity d'Alfonso Cuarón, le pointu et quasi métaphysique Interstellar de Christopher Nolan, Ridley Scott tente Seul sur Mars, un blockbuster annoncé comme réaliste, avec ce qu'il faut de science et de vraisemblance sans gâcher le spectacle. Nous sommes en 2030 au moins, et les missions sur Mars existent, mais restent des expéditions quand même risquées.
1200 km de diamètre, cap à 24,41 degrés. Elle se dirige droit sur nous. Selon les derniers calculs, on estime sa force à 8600 newtons.
À combien on abandonne ?
À 7500.
Au-delà de ça, le VAM risque de basculer.
Entamez la procédure.
On n'a qu'à attendre.
Préparez-vous pour un décollage d'urgence.
Alors autant Woody Allen hein, fait référence à la philosophie au bac de philo, là il faut quand même se figurer ce que c'est qu'un newton, hein, quand il y a 1000 newtons de différence, combien ça fait, je vous laisse calculer chez vous. La suite, vous la connaissez, hein, donc puisqu'elle conditionne le titre du film, Seul sur Mars. Le petit vénard qui reste planté sur la planète rouge à 225 millions de kilomètres de la Terre, eh bien c'est Mark Watney, Matt Damon et tous ses muscles. Il est laissé pour mort par ses coéquipiers qui repartent direction la Terre pour un voyage retour qui prendra un certain temps, mais rien à voir avec le sort réservé à celui qui doit survivre sur une planète hostile où il fait de 0 à 20 degrés le jour et jusqu'à moins 80 la nuit, et sur laquelle il ne faut pas compter bien cultiver carottes, tomates ou haricots. Au hasard, hein, c'est là le premier nœud du problème. Pour comprendre cet extrait, qui va suivre. Il faut savoir que le sol correspond à la mesure d'un jour martien. Le jour martien est un peu plus long que le nôtre, mais pas beaucoup plus, hein, 2,75%. Mais dans le film, eh bien, les spécialistes de la NASA parlent en sol parce que quand même, c'est des scientifiques, c'est top crédibilité.
Bon, on va calculer un peu. Notre mission en surface était censée durer 31 sols. Par sécurité, ils ont envoyé 68 sols de vivres et c'était pour 6 personnes. En ne comptant que moi, j'ai de quoi tenir 300 sols que je dois pouvoir allonger à 400 en me rationnant. Donc, il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Sur une planète où rien ne pousse. Par chance, je suis botaniste. Mars finira par avoir peur de mes pouvoirs de botaniste.
Alors, si on admet que la gestion de la nourriture n'est plus un problème, hein, puisqu'il est botaniste, il faut quand même trouver le moyen de repartir. Le film avance donc sur deux terrains. Il ne s'agit pas seulement de la gestion d'un huis clos sur une planète dont il faut découvrir les règles et où l'on suit un Robinson Crusoe un peu rusé. Seul sur Mars, c'est aussi la question de savoir ce que les Terriens peuvent faire avec un homme perdu sur une planète qu'ils n'ont pas encore domestiqué avec des aéroports et des transports long courrier. Passer les aspects politiques et de relations publiques qui ne sont pas gommés dans le film de Ridley Scott. Il est question eh bien, de savoir quoi dire au public, aux politiques et quel risque prendre hein, pour aller chercher un seul homme. Le film de Ridley Scott donc, nous fait passer quasi autant de temps sur Terre que sur Mars. Alors, autant Matt Damon est seul sur Mars, autant sur Terre, eh bien, ça grouille. On y trouve des spécialistes qui ont tous un avis sur la question ou au moins un moyen de résoudre les équations du problème, à savoir comment ramener ce type qui s'est perdu aussi loin, sachant que tout le monde sait eh bien, qu'il poirote. Alors, Ridley Scott ne met pas en avant la grandeur de l'Amérique, mais plus sûrement l'importance du savoir et saupoudre le tout de culture geek et d'une bonne dose de courage et d'audace. Et on a même le droit eh bien, à un clin d'œil à Kubrick avec un vaisseau qui ressemble à celui de 2001. L'ensemble n'est pas si mal réussi et le divertissement intelligent fonctionne même si ça n'a pas la profondeur eh bien, d'Interstellar ni la force de Gravity. Alors, cela tient sûrement au dosage entre la vie martienne et la vie terrienne. Sans en faire le décompte, il n'a pas assez joué le jeu du huis clos martien, il n'a pas attrapé le vertige de la solitude, de la perte, mais il est vrai que Ridley Scott n'a pas pris non plus Matthew McConaughey hein, pour interpréter l'homme abandonné et seul sur Mars devient trop vite comment être sauvé de Mars. La partition de Matt Damon, puisqu'il est quand même bien de beaucoup de plans, est plutôt rassurante dans l'exercice. Et je sais que eh bien, nombreux n'apprécient pas forcément Matt Damon. Moi, j'avoue que je le trouve plutôt bon dans ses rôles. Et pour terminer, par la vraisemblance de Seul sur Mars, il semblerait que le cinéma ait quand même pris le pas sur la science par moment. Hein. La tempête qui fait décarpir tout le monde au tout début, selon un spécialiste des planètes, eh bien, n'aurait jamais dû bousculer les astronautes, puisque... Eh bien, une planète sur Mars eh bien, devrait être ressentie comme une brise tellement l'atmosphère de Mars est fine. Mais il y a tout de même plein de paramètres qui sont respectés et qui permettent d'amener des éléments dramatiques comme le fait que la pression atmosphérique eh bien, sur Mars est infiniment plus basse que sur Terre, ce qui a des conséquences graves. Hein. L'eau y bout dès 5 degrés. Ça veut dire que très vite, eh bien, votre sueur bout. Ça pique un peu la vie sur Mars. Voilà. Bon, ça n'arrive pas à Matt Damon quand même. Hein. Précisons-le. Alors, il se trouve que c'était une avant-première et que j'ai tendu mon micro et on va eh bien, écouter ce qu'en pensent les auditeurs.
L'astronaute Mark Watney a trouvé la mort.
Un film de Ridley Scott très conventionnel, mais toujours très bien foutu. Ça se démarque des films de science-fiction au terme que c'est traité scientifiquement... plausible, je veux dire, il y a beaucoup plus de détails scientifiques, ce qui rend le récit un peu plus crédible. Donc l'histoire un peu plus engageant du point de vue du spectateur.
C'était à la hauteur de mes attentes. Après, il y avait des choses qui n'étaient pas, on va dire, faisables scientifiquement parlant, mais bon.
Dans ta face, Neil Armstrong.
J'adore Matt Damon. J'ai beaucoup aimé l'effet 3D dans l'espace. Des fois, l'effet 3D n'est pas forcément réussi. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'humour. Il y avait une bonne fin, comme toutes les fins américaines. J'ai bien aimé qu'il n'y ait pas de drapeau américain partout, comme on voit dans tous les films. Voilà. Bon, après, ça a du Ridley Scott, donc bien. Et du Matt Damon, donc très bien. Voilà.
Est-il possible qu'il soit encore en vie ?
Eh bien, vous le saurez en allant voir Seul sur Mars, donc film de Ridley Scott. Nous allons jouer maintenant un blind test spécial Matt Damon, donc, qui incarne cet homme perdu sur la planète rouge. Voici donc le premier extrait.
Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent « Envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénef. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs. Jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Je vais attendre une offre meilleure.
Morale, responsabilité dans un film de 1997, Marine.
Qui ne me parle absolument pas d'ailleurs.
Ça a été trouvé en régie. Et c'est Will Hunting, film de Gus Van Sant. Eh oui, 1997. Alors c'est un monologue, hein, et on écoute quand même la fin.
Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président.
Voilà. Il n'y a que fumer qui est une bonne idée dans ce qu'il dit. Hein.
On passe au deuxième extrait. Il faut reconnaître donc les films où joue Matt Damon.
La vraie ironie, c'est que je fais pas semblant. Pas semblant d'être un autre, alors que toi.
Mortel.
J'ai été sincère. Je t'ai ouvert mon cœur. Sans la moindre méfiance.
Mortel.
Mais toi, si tu veux savoir, il y a quelque chose, je le vois bien. Le soir où on a fait la partie d'échecs, tu vas dire que ça crevait pas les yeux.
Quoi, quel soir?
Bah voyons, non, ce serait trop dangereux, bien sûr, que tu le reconnaisses. Oh non, 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 mes frères. Et tout ce que tu trouves, c'est ce truc sordide avec Marge. Il a fallu que tu la baisses sur le bateau, alors qu'on entendait tout. C'était une torture pour tout le monde. Il faut que t'écoutes que ta queue quand on a envie. Et là, tu vas te marier. Non, j'en reviens pas, je m'excuse. Tu racontes des salades, tu mens à Marge, et puis tu l'épouses alors que tu tapais Sylvana. Tu l'avais engrossée, tu bousilles la vie des gens, tu veux jouer du saxo, tu veux jouer de la batterie, décide-toi. À quoi tu joues? Pour qui tu te prends, hein? Des cassettes de troisième zone, pour qui tu te prends? De quel droit t'as quoi que ce soit à me dire, hein? De quel droit? Je t'interdis de me dire quoi que ce soit. D'ailleurs, je me demande vraiment ce que je fais sur ce bateau avec toi. Je peux pas faire un geste sans que tu fasses le même.
Tais-toi.
Tu me donnes envie de vomir. Tu me donnes envie de vomir. À tout bout de champ. Tiki, tiki, tiki. Comme une petite fille sans arrêt. Tais-toi.
Et voilà, c'est comme dans les Woody Allen, il devrait y avoir ça quand il y a un monologue trop long, il y a quelqu'un qui frappe l'homme qui parle. Voilà, donc le talentueux Monsieur Ripley, ça a été trouvé encore une fois en régie. Et donc film de 99 avec Jude Law. Et alors là, autant ça parlait beaucoup, autant là, on va essayer de réduire l'extrait. Et voilà, à vous.
Mémoire dans la peau.
Ouais, sur le fil, Marine.
La mémoire dans la peau.
Sur le fil, bravo. Alors, c'était la vengeance dans la peau, mais c'est pareil. C'est un Jason Bourne, effectivement.
Et les bruitages dans le micro.
Qui a révélé, en tout cas, le côté musclé de Matt Damon. nous passons à quatrième extrait.
Alors, de quoi est-ce que vous vouliez me parler?
Le gouvernement va vous expulser à cause de certaines activités.
Je vis dans ce pays depuis l'âge de 2 mois. Et vous pensez que je suis italien? Je suis américain. et on veut me renvoyer là-bas.
Je pourrais faire annuler votre ordre d'expulsion et vous faire classer comme hautement sensible pour la sécurité nationale. J'intercéderai pour que le gouvernement vous oublie si vous nous aidez.
C'est des gars comme vous qui me font peur. C'est des gars comme vous qui font des grandes guerres.
On fait en sorte que ça reste des petites guerres, monsieur Palmy.
J'ai une question à vous poser. Nous, les Italiens, on a nos familles et on a la religion. Les Irlandais, ils ont leur patrie. Les Juifs ont leur tradition. Même les nègres, eux, ils ont leur musique. Mais vous et vos semblables, monsieur Carlson, qu'est-ce que vous avez ?
On a les États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes tous ici qu'en visite.
Eh, trouvé, Marine.
Oui, donc c'est Raison d'État.
Oui.
Oui.
Un film de Robert De Niro et qu'on entend, enfin on entend la voix française. Bien évidemment, film de 2006 parce que j'ai pris en fait les films dans l'ordre. Donc on va terminer avec un dernier extrait. C'est un film de 2012.
J'ai vécu ça des dizaines de fois et c'est une impasse. Vous avez tenté le coup, c'est normal. Mais je dis attention. Ne jouez pas trop à ce jeu-là. Parce qu'on ira simplement voir ailleurs, c'est ce qu'on fait toujours. Et quand on aura signé toutes les villes dans les trois États, que chacun aura mesuré les nombreux et fantastiques avantages pour leur économie, on reviendra vous voir. Mais ce jour-là, on ne vous fera pas de cadeau. Cette ville n'aura rien, que dalle. Les avantages secondaires, le juteux contrat de bail, vous devrez faire le deuil de tout ça. On s'offrira cette ville sans rien donner.
Alors, c'est Matt Damon qui est en vieux pull, en vieux blouson et qui bosse pour une compagnie pétrolière de gaz de schiste. On avait commencé avec Gus Van Sant, et on termine avec Gus Van Sant, c'est Promised Land.
Ah.
Voilà, film de 2012. Ainsi s'achève ce blind test spécial Matt Damon, et nous allons passer maintenant à un film français.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Et on poursuit donc avec Par accident de Camille Fontaine. Amma est une jeune Algérienne exilée dans le sud de la France. Elle vit avec son mari et sa fille dans des conditions très précaires, survivant entre travail clandestin et attente de régularisation. Je ne savais pas si j'allais pouvoir dire ce mot. Un soir, en entrant au volant de sa voiture, elle heurte accidentellement un piéton. Ravagée par la culpabilité, elle pense ne jamais avoir ses papiers quand elle est finalement innocentée, grâce au témoignage de Angélique, une jeune femme mystérieuse avec qui elle devient amie. Mais Angélique révèle peu à peu un côté plus sombre derrière son apparente joie de vivre. Kleptomane, intrusive, elle devient de plus en plus inquiétante pour Amra, qui ne parvient pas à comprendre ses intentions.
J'arrive pas à croire que j'ai renversé quelqu'un.
On va s'en sortir. Je te le promets.
Un témoin s'est présenté à la gendarmerie et a dit que je n'avais aucun moyen d'éviter l'accident. C'est vous, Angélique ? Merci. Je m'excuse de te recevoir ici.
Tu peux, c'est un taudis.
C'est Angélique, mon témoin.
Tu sais que tu es la première personne qui a ramené à la maison ?
Je suis super touchée, alors.
Par accident est intéressant pour la pluralité des thèmes abordés. L'exploration du sentiment de culpabilité se double ainsi de réflexions plus ou moins abouties, du moins esquissées, sur l'immigration, la précarité et la clandestinité. Par accident propose un mélange de thèmes ainsi qu'un mélange audacieux et plutôt réussi de genre, puisque le film social se mêle au thriller. L'intrusion dans le foyer familial d'un élément perturbateur à travers un personnage mystérieux aux intentions troubles est un gimmick scénaristique qui n'est certes pas nouveau, mais s'avère traité de façon efficace. Le trio d'acteurs Afia Erdsi, Émilie Dequenne et Mounir Margoum fonctionnent bien et la photographie, très soignée, fait véritablement des paysages un quatrième personnage. Alors, qu'est-ce qui fait que Par accident n'est pas vraiment, au final, une réussite ? Eh bien, la réalisatrice Camille Fontaine est un pur produit de la Fémis et cela se sent. Très soignée, trop scolaire, son film a tout de l'œuvre de la bonne élève, qui s'inscrit certes dans la catégorie des réalisateurs à suivre, mais ne réussit pas tout à fait ce premier essai. Les dialogues sont efficaces, mais la direction des acteurs laisse à désirer, en particulier le couple Afia Erdi et Mounir Margoum, dont la diction manque de naturel. Les scènes sont épurées au maximum, à outrance, souvent, au point que le rythme est presque trop intense, laissant à peine à la tension le temps de se développer. Le suspense du film reste ainsi timide, alors qu'il aurait pu être extrêmement efficace, en grande partie grâce au jeu de Émilie Dequenne, ici à mi-chemin entre son rôle de coiffeuse délurée dans Pas son genre et de mère infanticide dans À la folie. Au final, l'élément le plus surprenant du film reste sa musique, composée par Christophe. Et le film confirme, en tout cas une tendance importante dans le film français actuel, le thriller Sud de France. Alors, est-ce le résultat du travail acharné des organismes de tournage ? Est-ce pour des raisons économiques ou tout simplement parce que le meurtre est moins pénible au soleil ? Toujours est-il que les réalisateurs choisissent de plus en plus la région PACA pour leur thriller. Je ne sais pas pourquoi, personne ne veut aller tourner de thriller en Bretagne ou à Strasbourg. Donc voilà, en tout cas, ça fait un film très agréable à regarder, qui est quand même loin d'être parfait, mais pour un premier film, ça reste intéressant.
Mais quand est-ce que la famille sortira des réalisateurs comme Gaspard Noé ? Enfin,
À mon avis, c'est pas pour demain encore. Je pense que ça reste très bon élève.
Eh oui.
Très dans cet esprit-là, très sage.
Et Avia Herzi, donc, qui fait du Avia Herzi, donc pas
oui, voilà,
très
qui parle de façon très étrange, avec une articulation très bizarre, très prononcée. Du coup, ça fait qu'on sort un petit peu du film, en fait.
Ça reste un mystère pour moi, cet acteur.
Oui, mais bon, je comprends.
Comme ça. On passe à un autre film français qui, cette fois-ci, lui, est complètement raté.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquilliseurs sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, c'est une comédie française, une comédie à l'ancienne, une comédie qui avance avec ses gros sabots qu'on entend à des kilomètres. Invraisemblable, mais pire, mal incarnée, cette histoire de belle famille, il faut prendre le titre au sens propre comme figuré, eh bien, cette histoire tourne court. Jérôme Varenne, incarné par Mathieu Amalric, vit à Shanghai et est de passage en France où il manque de coller une attaque à sa mère, la glaciale Nicole Garcia, qui visiblement, donc, ne le voit pas beaucoup. Alors ce passage dans son pays d'enfance va l'embarquer, et nous avec, malheureusement, à Ambray, petite ville provinciale qui n'existe absolument pas, où la vente de la maison familiale pose problème. La mère, le frère, le meilleur ami, le maire et la belle famille, puisque le père a vécu une nouvelle vie avec une autre femme, tous ces gens-là vont se croiser pendant les 1h30 que dure ce film de Jean-Paul Rapneau. Et quand je dis croiser, c'est que les séquences s'enchaînent comme au théâtre, avec une certaine fausseté, exagération qui crève l'écran au cinéma. Tout le monde joue un ton au-dessus, sauf peut-être Marine Vacte. Alors, comment on dit ? C'est comme ça, hein, c'est Marine Vacte ?
Oui, il me semble bien.
Celle qui joue dans Jeune et Jolie. Donc, qui, là, incarne la jeunesse, le désir et la tentation. Alors, c'est pas bien compliqué pour le réalisateur qui se contente de montrer la jeune fille étendue sur un lit en petite culotte. Voilà, on en est là. Dans un classicisme poussif, un ronronnement, un conformisme qui se montre même indélicat avec l'univers provincial... Par exemple, il y a le personnage de la mère Nicole Garcia donc, qui revient après de longues années dans cette petite ville de province au bras du maire. À l'occasion d'un festival de musique classique, la foule est attentive à ses faits et gestes, murmure à son sujet. Enfin, tu imagines une entrée dans un festival où on se dit « Ah mais oui, c'est la femme de l'ancien chef de clinique d'il y a 20 ans ou 30 ans ». Enfin, des choses complètement invraisemblables comme ça. Alors c'est l'une des nombreuses invraisemblances visibles tout au long du film. On pourrait penser qu'il s'agit des détails, mais il y a tellement de scènes semblables qu'on parle plutôt d'un style. C'est-à-dire qu'on demande aux figurants de faire à peu près n'importe quoi, d'être toujours dans l'exagération. Le réalisateur couche l'idée sans doute d'une séquence, mais les comédiens ne l'incarnent pas. Ça devient comique, mais vraiment involontairement. J'ai raconté hors antenne l'histoire de la station essence avec Mathieu Amalric qui empêche tout le monde de prendre de l'essence. Et il y a un type qui est derrière, qui klaxonne et qui n'arrête pas de faire des gestes dans tous les sens dans sa voiture. Alors qu'il aurait pu sortir, dire à Mathieu Amalric, mais t'es quand même qu'un sacré connard. Non, il continue à faire n'importe quel geste dans sa voiture, à s'énerver tout seul. Voilà, c'est le cinéma de Jean-Paul Rapneau en 2015. Quand Rapneau a fini de tirer tous les fils de l'histoire, qu'on se rend compte que la mère finalement n'est pas si froide, que son frère est un archaïque, que son meilleur ami vit au travers des autres, que son père fut inconnu pour Jérôme et qu'il savait sourire aussi, que la belle fille jeune, sauvage et bien roulée, elle s'apprivoise. Quand on finit par voir où l'histoire nous emmène, on se dit qu'on avait mieux à faire. Belle famille, c'est une idée de scénario qui n'est pas forcément mal filmée, quoi qu'il y aurait à dire sur les flashbacks où Jérôme revoit des ambiances glaciales de la maison familiale. Mais donc, c'est un film qui est surjoué. C'est une comédie qu'on aurait bien vue dans les années 60 ou 70, mais qui, en 2015, a une sérieuse odeur de naphtaline, d'un sirop pour la toux posé sur la table de nuit, avec la bouillotte encore chaude au pied du lit. À 8 millions l'ambiance, ça fait quand même un peu cher. Voilà. Ce que j'en pense du Belle Famille de Jean-Paul Rapneau. Alors, il se trouve que de nombreux critiques ont apprécié le film.
Aimé,
alors,
oui.
Je ne sais pas si c'est par déférence, je n'ai pas compris. Voilà. Ainsi s'achève Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks.
ça devrait pas trop durer.
C'était Cinérama, c'était des films qui sont au moins sur les écrans depuis le 21 octobre. Marine, la semaine prochaine, tu parles.
Et la semaine prochaine, je vous parlerai entre autres de Mon Roi, le dernier film de Mai Wen qui a été présenté à Cannes et donc qui sort cette semaine.
La semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.
Divergence FM. Hey,